The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, une semaine sur deux, les semaines paires, eh oui, sur Radio G. Salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Mais qui es-tu?
La Nantaise est revenue pour un soir.
Oui, c'est une reconstitution de Ligue dissoute ce soir.
Oui, c'est vrai.
Puisqu'on retrouve des anciens de l'émission. Merci Héloïse d'être venue.
Avec plaisir.
Heureusement qu'il y a des vacances scolaires.
C'est clair, ça aide.
Salut Anaïs.
Salut Seb, salut Loïs, salut Seb.
Salut.
Salut.
J'adore. Salut Seb.
Et salut les auditeurs.
Ouais, et de quoi on va parler ce soir, Héloïse, de quoi tu nous parles?
Alors moi j'ai quelques livres sous la main, deux livres un peu thème Halloween parce que du coup on en sort donc je me dis que c'est un peu dans le thème. Une BD et une mini-série que j'ai particulièrement aimée. Voilà, pour moi.
Anaïs ?
Eh ben, on va rester dans le thème un peu macabre avec la série dont je vous ai un peu teasé. Je vous ai teasé la semaine il y a 15 jours.
Il y a 15 jours.
Et du coup, c'est la série You.
Ah yes.
Ah oui. Et Seb, une BD peut-être ?
Deux bandes dessinées, mais nous, on va partir dans les années 1920-1930 à peu près.
Excellent.
Et Seb,
et moi, je vous parlerai de cinéma.
Ah.
Parce que je suis allé au cinéma et c'était sympa.
Du coup, les vacances scolaires, ça aide.
Ça aide vachement. Alors, on va démarrer l'émission en écoutant un morceau de Queen. Alors, Pablo, qui n'est pas là, a demandé un morceau de Queen, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, pour l'instant.
C'était lequel qu'il demandait ?
Living on My Own.
Oui, d'accord.
Mais on va écouter Radio Gaga.
Vous allez
à la radio.
C'est vrai que c'est bien. Ça tombe bien
sur Radio G.
La radio qui fait le point.
C'est un point 5.
La radio qui fait le point.
Ah oui, c'est vrai.
We've been missing when we grow tired.
Queen avec Radio Gaga sur Radio G.
Très bon choix.
Si vous aimez la radio, si vous aimez Lady Gaga, c'est pour vous.
Ça n'a rien à voir. Bonsoir.
Ça s'appelle un étrange mix quand même. Hein.
On aime ça ici. Parce qu'on
c'est
est.
Éclectisme.
Éclectique.
Voilà.
L'éclectisme. Surtout le 110 mètres L, je dois préciser.
Tout de suite le cinéma.
Avec un petit jingle ?
Bah bien sûr. Ouais, mais c'est difficile de couper Queen en fait.
Bah oui.
Allez, on coupe quand même.
T'as réussi à
du coup, c'était brutal
même.
En fait.
Pardon.
J'aurais pu assembler les deux.
Alors les vacances sont toujours bienvenues pour aller au cinéma, évidemment. Et donc j'ai eu la chance d'aller voir trois films très différents, je vous le cache pas. Julie en 12 chapitres, oui. Illusion perdue et Venom, Let There Be Carnage.
C'est clair, le grand
là,
écart
là,
quoi.
C'est le grand écart, là c'est pas mal.
Mais c'est l'éclectisme les gars. Alors, Julie en 12 chapitres, c'est un film de Joachim Trier, un réalisateur danois, hein, et ça se passe à Oslo en Norvège. Bon déjà, ça vous situe un peu le cadre. Alors c'est l'histoire de Julie, comme son nom l'indique, qui a bientôt 30 ans et qui n'arrive pas à se fixer dans la vie. Voilà, très bien. Alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'un gars qui s'appelle Axel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. Voilà.
Tout bascule.
Tout bascule. Alors, c'est intéressant. C'est l'histoire d'une jeune femme, Julie, qui est un peu égocentrique, quand même. Mais c'est assez bien raconté parce que donc c'est découpé en 12 chapitres, assez inégaux. Ils sont pas tous de la même longueur, mais 12 moments très importants en fait de sa vie. Et donc, ils sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres, mais c'est très bien interprété. L'actrice principale, elle est géniale. C'est une actrice norvégienne.
T'as son petit nom ?
Schkrutsch. Non, elle s'appelle Renate Reinsve.
Très bien, très belle prononciation.
Renate Reinsve.
Aquavita.
Ouais, bien prononcé. Bonsoir.
Elle est d'autant plus excellente dans le rôle qu'elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce film. Hein.
D'accord.
Donc elle est vraiment excellente. Donc on est loin de Thelma et Louise. c'est pas un film féministe, mais c'est un film sur une femme et la façon dont elle essaye de mener sa vie. En fait, voilà. C'est un beau portrait de femme. Elle est en quête d'un équilibre qu'elle trouve pas en fait et d'objectifs à donner à sa vie. Voilà.
D'accord.
J'ai beaucoup aimé ce film. Hein. C'est très très. Ça fait du bien. En fait, on en parlait il y a 15 jours. Oui. J'en avais marre de la violence. Eh ben là,
attends, vu ce que t'as dit.
Non, c'est pas du tout violent. Hein,
oui,
film,
non, mais
j'en avais marre de la violence. Là, je suis parti justement dans un film très calme, voilà, très beau, et en même temps avec des vrais, un peu triste aussi à la fin, parce que tout n'est pas drôle dans la vie. Mais donc, voilà, c'est un film qui c'est un beau moment de cinéma. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je ne sais pas comment le vendre ce film. C'est un joli film, quoi.
Bah, voilà. C'est bien vendu.
Okay.
Oui, c'est bien vendu. Ça a marché.
Je vous le conseille. Deuxième film, Illusion perdue de Xavier Giannoli, un film français cette fois-ci. Alors c'est l'adaptation du roman d'Honoré de Balzac, Illusion perdue. Alors le film dure 2h30, hein, c'est plus long. L'autre ça durait 2h. Là on a une adaptation mais qui n'adapte qu'une partie du livre, parce que Illusion perdue c'est un gros bouquin de Balzac. C'est surtout l'histoire de Lucien, qui est un jeune poète qui vit à Angoulême. Il est complètement inconnu, hein, donc au début du 19e siècle. Et il a de grandes espérances. Il veut devenir un poète célèbre, hein, donc il va aller monter à Paris. Il quitte l'imprimerie familiale donc, pour aller à Paris. Il a une protectrice, hein, qui l'aime, donc, voilà, qui lui donne de l'argent. Mais il se retrouve livré à lui-même.
C'est un gigolo, quoi.
Ben, voilà. Mais vous verrez dans le film, hein, c'est une vieille. Alors pour lui, parce que lui, il est jeune, mais elle n'est pas. C'est Cécile de France, elle n'est pas si vieille.
Non, elle n'est pas si vieille.
Mais si vous voulez, elle joue vraiment la femme, la noble de province qui s'ennuie, quoi. Donc elle. Voilà, elle donne de l'argent.
Elle s'ennuie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend gigolo.
Voilà, elle lui donne de l'argent pour qu'il monte à Paris. Bref.
C'est très actuel. Hein,
mais il est livré à lui-même à Paris, et le jeune homme, il va découvrir les coulisses, hein, du monde, en fait, qui est fait de mensonges, d'hypocrisie et de faux-semblants. Voilà. Donc c'est la comédie humaine de Balzac. Tout s'achète, tout se vend, vous verrez dans le film. La littérature comme la presse, la politique, les sentiments, les réputations, tout.
C'est bizarre, j'ai une chanson qui me vient à l'esprit.
Ah oui, on va s'aimer ?
Non, femme.
Donc il va aimer, il va souffrir, et est-ce qu'il va survivre à ses illusions ?
Ah.
Voilà, c'est ça le film. Alors très bien, avec Benjamin Voisin, qu'on a vu dans Été 85 de François Ozon, Cécile de France, Vincent Lacoste, génialissime comme d'habitude.
Oui, il y a un beau casting pour ce
Xavier
film.
Xavier Dolan, qui joue sans accent. Bravo, bravo à lui.
Une performance.
Non, film, c'est un film impressionnant par sa réalisation. Moi, on n'a pas vu le temps passer. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, ça faisait penser à un film entre Milos Forman et Amélie Poulain.
Waouh.
Effectivement, là, t'es parti sur les grands écarts.
Un film romanesque, en fait. Vous voyez, on est entre Amélie Poulain et Amadeus, quoi. C'est un truc comme ça. Bon, bref, j'exagère peut-être. Mais en fait, c'est que ça m'a bien plu parce que vraiment, ça passe tout seul, quoi. C'est un film où on s'ennuie pas une seconde, quoi. Voilà.
C'est comme une lettre à la poste.
Voilà, très bien. Et enfin.
Alors la transition va être difficile.
Pas du tout violent.
La cerise sur le gâteau. 1h38.
Oui, pas de violence du tout.
Ah si, alors là pour le coup, là c'est mon fils qui. Bon, salut Paul. Qui m'a emmené. Parce qu'avant c'était avec Florence, donc voilà, c'était différent.
La douceur féminine.
Ouais, et puis on avait besoin de ça, on avait envie de ça. Là, avec Paul, on est plus dans le dur. On est dans le Venom. Let there be Carnage. Alors pour ceux qui ne savent pas, Carnage. C'est un psychopathe hein, qui est extrêmement violent et méchant contre Venom qui est aussi un psychopathe extrêmement violent
et méchant
et mais moins psychopathe. En fait, c'est, donc non, l'intérêt de ce film, c'est Tom Hardy, voilà, qui est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, donc l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un symbiote extraterrestre qui prend le contrôle de Tom Hardy, voilà, Eddie Brock. Journaliste, c'est ça. Ben oui, mais il y a cette ambiguïté dans le film, hein, très clairement. Dans le film, il y a cette ambiguïté entre les deux personnages qui vivent ensemble comme ça, collés l'un à l'autre. Et Venom, au départ, c'est un méchant. Mais là, il doit affronter pire que lui. Parce que c'est Carnage. Donc, Woody Harrelson, que vous connaissez, joue un psychopathe, un tueur en série, en fait, voilà, tout simplement, qui au contact du symbiote, devient lui aussi un monstre terrible qui s'appelle Carnage, du coup. Voilà. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein.
Ça a le mérite d'être clair.
Par contre, il y a de l'action, on se marre, c'est drôle, il y a de l'humour. Voilà. Si vous avez aimé le premier, parce que c'est le deuxième, vous pourrez apprécier celui-là. Bon, voilà, 1h30. Alors, c'est à la fois court et
assez long.
Ouais. En fait, c'est bien, je trouve, moi, 1h30 pour un film.
Mais pas plus.
Ouais, et en même temps, il y a trop d'ellipses dans le film. C'est-à-dire qu'il y a plein de passages qui sont sautés.
Personnellement, j'avais vu le premier et j'avais trouvé que le début, tout est trop vite, en fait.
C'est
tout
ça.
Arrive super vite et voilà.
Et ben, c'est la même, c'est la même chose.
C'est-à-dire il y a 1h15 de violence, 15 minutes de réflexion, c'est ça ?
Non, alors il y a
d'abord dans le film.
Il y a d'abord beaucoup d'humour. La violence vient après. Alors surtout le point culminant, c'est le combat final entre Venom et Carnage, évidemment. Voilà, bon, je sais plus comment vous dire.
Ils en font tellement des films de super-héros super vilains maintenant que c'est un par an en fait et c'est au bout d'un moment, je pense que ça devient un peu redondant, en fait. C'est soit déjà t'aimes le personnage de comics et que tu le connais, et
là,
voilà.
C'était ça.
Soit t'y vas pas, je pense.
Et puis là, il y en a un nouveau qui va sortir aussi, en même temps.
Ils en sortent un par an, ils en ont prévu.
Éternels.
Les Éternels.
Oui,
les Éternels.
Mais c'est pas des méchants.
Attention,
ils sont
pas
éternels.
De spoilers, on en reparlera.
Ils sont éternels, ça, on peut déjà
là, de toute façon, Venom, c'est pas compliqué, c'est un gros lourd contre un super méchant.
Et moi, je pose toujours ma question, et Deadpool là-dedans.
Alors moi, j'adorerais voir un Deadpool contre Carnage, par exemple.
Ça pourrait être marrant, ça.
Alors, à la fin du film, je spoil pas, mais je vous le dis quand même, faut rester après.
Toujours.
Et là, en fait, il y a un événement étrange. Eddie Brock, donc, qui est Venom, en fait, se retrouve un petit peu téléporté. Alors, on ne sait pas s'il est téléporté seulement dans l'espace ou dans le temps, ou dans une autre dimension. Alors, on pense que, avec Paul, on a une théorie, on pense que c'est une erreur,
Strange.
De Doctor Strange, exactement. Et du coup, il se retrouve dans la même dimension que Spider-Man. Donc, ça veut dire que le prochain Spider-Man va être terrible parce qu'il va rencontrer Venom, qui est sa némésis.
Oui.
Voilà, ça va être super. Bon, c'est le seul intérêt du film, c'est de savoir qu'en fait, le prochain film, ce sera Spider-Man avec Venom, ça va être super.
Oui,
et du coup, on le sait déjà, donc voilà.
Oui, mais c'est dans le film. Hein. C'est
ça. C'est
pas. Enfin, nous, on a. Comment dire.
C'est une hypothèse.
Oui.
Alors, l'hypothèse de Spider-Man, c'est sûr.
Oui, c'est sûr. Ça sent le. Ils en ont prévu des Spider-Man encore. Donc, ça m'étonne.
Oui, parce qu'on voit. J'ai oublié le nom de l'acteur. Tom Holland. À la fin du film. Donc,
deux Toms qui s'affrontent.
Oh, Tom Hardy contre Tom Holland. Je n'avais pas pensé. Par contre, c'est pas le même gars.
TH contre TH en plus. Hein.
Non, mais vraiment sur les mêmes. Arrêtez de dire Hardy parce que là, j'ai envie de dire.
Arrêtez de dire Hardy.
Ah oui, j'ai envie de dire Hardy. Alors, je récapitule. Alors, un film donc danois-norvégien, Julie en 12 chapitres.
Tout sentimental.
Ouais, roman, super, super film. Illusion perdue, donc un film français de Xavier Giannoli, et Venom 2, si vous avez envie de vous amuser. Voilà. Encore dans l'éclectisme, quand même.
Ah oui, clairement.
Bon. Et effectivement.
Merci Seb.
Merci
pour la sélection.
Il vous en prie. Alors, Héloïse, puisque tu es là, on démarre par ta sélection musicale. Pourquoi ce groupe Big Dad Voodoo Daddy?
Alors du coup,
j'ai peut-être mal prononcé d'ailleurs.
Oui, bah après je le referai pas à ta place, donc oui.
Big Bad Voodoo Daddy.
Alors c'est un peu du jazz en ce moment. On avait envie d'écouter ça avec Nicolas, donc du coup je lui fais un bisou à mon amoureux.
Eh ben salut.
Et il m'a fait écouter ça et en fait j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et c'est chouette à écouter. Voilà, quand t'es un peu dans l'ambiance jazzy.
En ce moment on est très jazzy.
Alors j'aime beaucoup cette chanson pour le coup. Je la trouve super bien.
Alors on écoute
voilà, je
Big Bad Voodoo Daddy avec Why Me dans Band Geek Mafia.
Radio. Now would you see my baby? My baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her. Lord, I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today than I loved her yesterday, when I thought that she'd come back to me. This for me, I'm so sad and lonely, down as I can be, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, but I really miss her all the time. All the time. Now I said, why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today than I loved her yesterday, when I thought that she'd come back to me. Why me? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I loved her more today than I loved her yesterday, but I thought that she'd come back to me. Merci Héloïse pour cette découverte.
Et bah de rien, avec plaisir. C'était merci Nicolas.
C'est très sympa. Why Big me? Bad Voodoo Daddy, why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Waouh. C'était cool, un peu de jazz, on aime ça. Alors tout de suite, la suite, rien à voir, on va parler de séries télé.
Ouais. Et pour Seb et les auditeurs qui n'aiment pas la violence, on vous a laissé une petite semaine et demie pour vous remettre de vos émotions avant de vous parler de deux séries.
Bon, je suis allé voir Venom, donc je suis
vacciné. Parce qu'après,
celle
d'Héloïse va être aussi sympa.
Ouais.
Donc voilà, je souhaitais vous parler de la série You, une série qui est diffusé sur la plateforme NX et qui va, voilà, qui propose une troisième saison. Donc on suit toujours notre amoureux serial killer qui s'appelle Joe
Goldberg,
qui est joué par Penn Badgley. Donc en fait, voilà, Joe est un obsessionnel. Voilà, dès qu'il a une fille en vue, il devient amoureux et là il est prêt à tout.
Amoureux psychopathe, hein, c'est l'amoureux qui collectionne, ouais. Qui te regarde dans la rue, qui te suit,
qui voilà, récupère tes petites culottes, tous les objets et voilà, et qui
il
est
aura
prêt
pas
vraiment.
Les miennes.
Et la moindre personne qui peut faire obstacle à sa liaison ou voilà son amour pour la personne
finit pas très bien.
Non. Donc on
sans spoil, hein, voilà. On finit pas.
Donc première saison, voilà, on découvre un peu ce personnage. Deuxième saison, ce personnage rencontre un nouvel amour qui s'appelle Love Queen, et il s'avère que bon voilà, on va un petit peu spoiler les deux premières saisons. Il s'avère que Love Queen est aussi complètement barré et aussi psychopathe que Joe. Et on les retrouve donc en saison 3 en couple, hein, amoureux et avec un enfant, Henry. Et ils vivent dans une petite banlieue chic américaine. Et voilà, ils vivent, on voit leur vie de couple. Alors ça paraît un coup. Bah, les questionnements d'un couple traditionnel avec un nouvel enfant, voilà, sauf que bah, en
mais
fait
pas que.
mais pas que, puisque ils essaient tous les deux d'avoir une vie assez normale et assez saine, puisque maintenant ils sont parents, ils sont responsables, donc ça ils ont envie d'être meilleurs, hein, et puis en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein,
et ils retombent beaucoup dans leur travers très très vite de toute façon.
Donc voilà, c'est intéressant en fait. On avait peur peut-être qu'on se lasse de ce concept, puisque dans la saison 1, la saison 2, on a toujours un petit peu le même mécanisme. Et là, le fait d'avoir ce couple, ça, voilà, ça crée un petit peu plus d'émulation et voilà, un intérêt nouveau pour la série, des situations intéressantes. Parfois un peu gênante. Je sais pas si Héloïse t'as été dans les derniers épisodes, mais il y a des scènes un petit peu particulières. Je peux pas vous en dire plus.
Ah oui.
Ouais. Pour pimenter la vie de couple, on est prêt à beaucoup de choses. A priori, voilà.
Ouh, c'est un peu voilà, c'est intéressant.
Particulier. et voilà, on. Bah voilà, moi j'aime bien. Alors c'est un peu particulier parce que finalement on s'attache, c'est pas un attachement, mais voilà, les personnages, on a envie on les suit, quoi. Pourtant c'est des vrais psychopathes, quoi. Et on cherche à comprendre. Alors là, déjà un petit peu dans la saison 2, mais maintenant dans la saison 3 encore plus, on découvre le passé aussi de Joe, d'où il vient et comment il est devenu.
Ce qu'il est devenu.
Et puis.
Il n'est pas aidé.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la saison 1 et la saison 2 étaient vraiment centrées sur le personnage de Joe, et là, on découvre Love. Et voilà, on suit ces deux personnages qui sont aussi intéressants l'un que l'autre dans leur.
Leur parcours.
Ouais, voilà. Donc il y aura une saison 4, c'est sûr.
Là, ça a été annoncé.
C'est toujours aussi bien, alors.
Ouais, bon, franchement, ouais. Bah, la saison 3 était bien aussi.
Non, moi, j'en suis qu'au début. Je crois que je suis à 3-4 épisodes. J'ai du mal à me remettre dedans. Hein. Alors pour moi, l'épisode 1, c'est qu'on retournait dans la même chose. Donc je me suis dit, ah ouais, donc déjà, j'ai déjà fait la saison 1, la saison 2. Donc si on recommence une troisième saison qui est la même chose que les saisons précédentes, je vais vite m'ennuyer. Oui. Après, ça bouge assez rapidement. L'épisode 1, j'ai eu du mal à l'avaler un petit peu. Donc je me suis forcée à regarder l'épisode 2. Après, après tu te remets dedans, les personnages ils sont effrayants et attachants, entre gros guillemets. En fait, on a envie de savoir jusqu'où ils sont capables d'aller. Et l'idée du bébé, effectivement, ça amène autre chose. Ils sont dans une autre réflexion. Et j'attends de voir. J'ai pas été jusqu'à la fin. Je suis pas hyper méga convaincue, en fait. Tu vois, la saison 4, je pense que je vais peut-être avoir du mal à m'y remettre. La saison 3, j'y étais parce que je me suis dit, oh, j'ai rien à regarder. Bon, allez, je la mets, je vais aller voir ce que ça donne.
Mais on se demande là comment ils vont réussir à se renouveler. Parce que c'est vrai que le premier épisode de la saison 3, on a l'impression qu'ils vont reprendre les mêmes mécanismes. Oui. Et en fait, non. Du coup, ils prennent le contre-pied, c'est pas ça du tout. Par contre, en saison 4, là, je sais pas vers où on va aller.
Vers où ils vont,
Mais voilà. Si on a commencé, c'est bien de poursuivre. Dans saison 3. Donc c'est You sur NX.
Oh. On a toujours effectivement le même problème avec ces séries. C'est-à-dire qu'on est toujours accroché par la première saison, éventuellement par la deuxième. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi une troisième ?
Oui, il y a des fois où c'est un peu
en trop.
NX a ce problème d'annuler des séries qui sont plébiscités, où on demande une autre saison parce qu'on a envie de comprendre, et où ils disent non, il n'y a pas assez de budget, on va mettre d'autres saisons sur d'autres choses qui, bah voilà, enfin... Il y a d'autres séries qui mériteraient peut-être d'y mettre de l'argent. The OA, par exemple, qui était une super série où bah ouais, une autre saison, ça aurait pu être chouette plutôt que de l'annuler, en fait. Mais il y a plein de séries comme ça. Et de toute façon, vu qu'on est aussi dans, dans des années où les séries, elles pullulent sur, de plein de manières différentes, que c'est difficile des fois de trouver la série qui te...
Là, je trouve que la saison 3 se justifie. Par contre, je pense qu'on aurait pu s'arrêter là.
Oui, on est d'accord.
Parce que voilà, là, clairement, on risque de retomber dans les mêmes schémas, quoi. Alors que là, il y avait quand même.
Série, elle a Dexter.
Voilà. Mais là, il y avait quand même quelque chose d'intéressant avec ce couple, finalement, et cet enfant, et ce qu'ils traversent, et comment leur névrose évolue un petit peu avec tout ça.
Ce qui est assez comique, là, tu parles de Dexter aussi en même temps. Dexter, il parle de refaire une nouvelle saison.
Oui, c'est fait là, c'est acté. Ils sont en train.
Quelle drôle d'idée.
Non, mais c'est bien. Mais après, la dernière saison de Dexter était tellement horrible. Enfin, elle était ratée. Ah oui, elle était ratée.
Comme la dernière de Game of Thrones.
Bon, oui, non, mais c'est ça. On va pas revenir sur ce débat.
Pas l'histoire, mais c'est vrai.
Alors, Héloïse, tu as une série à nous présenter.
Oui, moi, je vous parle d'une petite série coup de cœur que j'ai regardée là pendant les vacances, qui s'appelle Maid. Du coup, qui veut dire aide ménagère, en gros.
Oui, la servante.
Qui a été créée par Molly Smith Metzler et qui est disponible sur NX. Et du coup, c'est l'adaptation des mémoires de Stephanie Land. Et son livre s'appelle Maid, Hard Work, Low Pay and a Mother Will to Survive. Du coup, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est Alex, une jeune mère de famille qui fuit une relation violente et qui devient femme de ménage et qui se bat pour subvenir aux besoins de sa fille Maddie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Alors, c'est joué par Margaret Qualley, qui joue Alex, et sa mère qui est jouée par Andy McDowell. Dans la vraie vie, elles sont vraiment mère et fille.
C'est ça.
Alors ça transparaît à l'écran. Andy McDowell est magnifique. Elle joue la mère bipolaire qui est vraiment difficile, qui est une artiste, qui va à 100 000 à l'heure, qui est à côté de ses pompes, mais qui aime sa fille et la relation est difficile. Et Alex, du coup, Margaret Qualley joue super bien la mère. Donc du coup, en fait, elle quitte une relation violente. Et du coup, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à survivre, parce qu'elle part avec sa fille sous le bras, sans le sou, sans rien, dans une Amérique où des fois, c'est compliqué en fait, et qu'elle se retrouve à la rue, à dormir dans sa voiture. Elle arrive à trouver un petit job de bonne, en gros. Et du coup, elle va se battre pour garder sa fille et pour essayer de sortir de cette relation violente. Et du coup, il y a plein de moments super touchants. C'est compliqué, hein. On se rend bien compte de la violence de la chose, parce que, je vais pas vous spoiler la série, mais elle part, il se passe plein de choses, elle finit par revenir, la réalisatrice, elle arrive bien à nous montrer comment est-ce qu'elle retombe dans la dépression, la jeune femme. En fait, elle se fait aspirer par son canapé, elle se retrouve c'est montré.
L'effet visuel.
Voilà, il y a la métaphore, elle se retrouve tout en bas d'un puits. En fait, elle entend, mais elle peut plus, elle réagit plus, en fait. Et on voit qu'elle va se battre, elle va ressortir de tout ça encore plus forte. Elle se bat aussi pour sa fille et pour lui donner un avenir meilleur que d'être avec son mec qui est alcoolique et qui a du mal à s'en sortir et qui est sur les nerfs tout le temps. Et en fait, vraiment, toute la série, elle est super bien filmée, c'est beau. C'est un peu prenant, c'est compliqué, c'est pas, on nous montre pas de la violence à proprement parler. Par contre, c'est violent psychologique. On voit par quoi elle passe, et c'est vraiment, les deux sont des très bonnes actrices. 20 sur 20 pour cette série qui m'a mise dedans direct. Donc, qui est vraiment une très belle adaptation du roman. Et vraiment, c'était parfait.
Et par rapport à ce qu'on disait, est-ce que c'est une série en une saison ou est-ce que ça va se poursuivre ?
Alors, de mémoire, c'est une mini-série. Je pense que à mon avis, ils vont pas en refaire. Il y a des mini-séries comme ça qu'ils ont fait sur une saison. Et c'est très bien. Oui. De toute façon, après, je sais pas si Stephanie Land a écrit la suite, parce que là, c'est vraiment la période où elle est femme de ménage, où du coup, elle essaye de s'en sortir et ça finit plutôt bien. Mais est-ce qu'il y a autre chose après ? Je pense pas que l'autrice, elle a fait la suite. Donc, à mon avis, ça va rester comme ça. Et c'est tant mieux, en fait, parce que la fin est douce. Et du coup, c'est bien parce qu'on passe par plusieurs phases. Et du coup, là, c'est bien que la fin est douce, tranquille. Mais j'ai beaucoup aimé.
L'actrice, la Margaret Qualley.
Oui.
Je l'ai vue, moi, je me souviens, dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino.
Oui, c'est ça. Oui.
Elle joue une des filles qui accompagne Charles Manson. Dans la famille.
Elle joue très très bien. Et vraiment, le duo Murphy, que ce soit à l'écran ou dans la vraie vie, enfin, ça transparaît, c'est fou et c'est super bien joué. Enfin,
cool.
Les actrices sont très très bonnes et c'est une très bonne série à regarder, qui est un peu dure hein, si vous avez vécu ou vous connaissez des gens qui ont vécu des violences conjugales, c'est un petit peu rude. Enfin, voilà, il y a des moments où on se sent pas hyper bien. C'est à regarder dans de bonnes conditions. Mais moi, je la trouve très bien et elle se finit bien, donc c'est vraiment
chouette.
On
va découvrir ça, alors.
Donc, je vous la conseille, Made sur NX.
Merci, Héloïse.
Bah, de rien, merci. Avec plaisir.
Héloïse, Made, c'est ta série favorite, là, cette
là,
semaine.
Ouais, franchement, c'est mon coup
et
de cœur.
Anaïs, c'est You.
Ouais, You.
Voilà. Bah, merci, les filles.
Bah, de rien.
Alors, on va écouter Isia.
Oui.
La vague.
Ouais.
Mais pourquoi ce choix?
Eh ben, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas entendue, puis ça m'est venu... comme ça.
Alors c'est tout de suite, ouais. Dans Bande Geek.
Et j'en profite parce que Héloïse a salué son amoureux et je vais faire un petit coucou au mien aussi.
Vous avez bien raison.
Voilà.
C'est beau l'amour.
On est bien sur Radio G.
Oui,
toujours.
101.5.
La radio qui fait le point.
Tu t'éloignes si loin de la plage, la terre soudain comme un mirage. Oh.
Fantasia. Avec la la la, pas du tout. Avec la vague.
Avec la la la.
C'était facile, hein, quand
merci.
Même.
Merci. Pourquoi c'était facile?
Bah, easy. Facile.
Ah ouais.
Je sors. Non, mais c'est, les jeux de mots pourris, c'est pour
c'est
moi.
Ça avec les bilingues.
Oui. Creature Shock Radio
FM.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là.
Alors, la bande dessinée, c'est maintenant. Alors, j'attaque, ensuite c'est Seb qui prend le relais et qui passe ensuite à Héloïse et qui marque. Non.
C'est le relais.
Alors, Algue Verte. Oui, Algue Verte.
Histoire interdite.
Pas, oui, ce n'est pas le nom d'un nouveau super vilain de Marvel. C'est l'histoire interdite, comme tu l'as dit, Anaïs. En fait, depuis la fin des années 80, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a au moins 40 animaux et 3 hommes qui se sont aventurés sur une plage bretonne, comme ça, qui ont foulé l'estran et qui sont morts, hein, qu'on a retrouvés morts. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un tueur en série en Bretagne. L'identité de ce tueur en série, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le connaît. Il a une odeur d'œuf pourri. Qui le trahit, c'est l'hydrogène sulfuré.
Oh là là.
H2S. Pour les chimistes. Alors, l'hydrogène sulfuré, il émane des algues vertes. Les algues vertes qui arrivent comme ça, hein, en tête de la liste des suspects, c'est clair. Et donc, de nombreux citoyennes et citoyens ont lancé l'alerte, hein, depuis des années. Ils ont fait comme ça de multiples reprises, des interventions dans les médias, mais sans réussir à empêcher la répétition des accidents. Alors, comment ça se fait? Eh bien,
il n'y a plus personne qui en parle.
C'est parce que personne. Non, c'est parce que personne ne veut agir. Alors, on va comprendre pourquoi. Mais là, c'est l'histoire de Thierry Morfoise, qui est décédé en 2009 après avoir charrié une benne d'algues en décomposition. Mais non, mais c'est pas drôle du tout.
Non, c'est pas.
Il travaillait. En fait, on nettoie les plages. Donc,
oui.
On demande à des gars de charger des camions avec les algues, etc. Sauf que lui, à force de faire des allers-retours comme ça, de transporter les algues en décomposition, il décède quoi, au volant de son camion. Il a un accident. Et donc c'est en 2018, 9 ans après son décès, que sa mort est reconnue comme accident de travail. Donc vous voyez, il faut quand même, on veut étouffer l'affaire. Donc ces algues maudites, elles sont le symptôme d'un mal profond qui prend ses racines dans les lois de modernisation agricole des années 60. Voilà, avec un petit fumet quand même qui s'immisce dans une nébuleuse d'intérêts de lâcheté qui mêle des gros bonnets de l'agro-industrie, des scientifiques à la déontologie suspecte, des hommes politiques qui craignent pour leur emploi, pour leur place, etc. etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est une BD géniale, c'est une enquête géniale. Si vous aimez la revue dessinée, on est complètement là-dedans, en fait. Hein. C'est un vent d'air frais dans une histoire pas très ragoûtante. Voilà, mais tout est vrai. On est abasourdi d'apprendre tout ça. C'est une enquête majeure. Et c'est une plongée dans l'industrie agroalimentaire bretonne. Ça s'appelle Algues Vertes d'Inès Leroux et Pierre Van Hove. Et je vous le conseille, c'est chez Delcourt, la revue dessinée. Voilà, super.
C'est vrai que c'est mort, on n'en a pas beaucoup entendu parler, bizarrement.
Moi, j'étais
c'est
surpris,
un peu vite.
Tous ces animaux morts.
Oui, les chevaux et
des
tout.
Chevaux,
ouais,
des cochons, des chiens.
Des sangliers.
Ouais.
Cette plage, il y a une plage qui est particulièrement touchée.
Oui,
que
alors.
Moi, que je...
Là, ce qui fait
mal,
peur, c'est qu'il y a une carte et on voit qu'il y en a plusieurs.
Mais oui, je vois très bien, il y a une de ces plages où on voit cette masse verte, là. C'est assez terrible, quand même.
Et en fait, il ne faut pas s'y aventurer, c'est très dangereux.
Oui, ils le disent maintenant, ces plages-là, elles sont interdites, je crois, aux touristes, enfin, à n'importe
et donc,
qui.
Voilà, et donc, le tourisme, comme c'est vraiment la clé du problème, c'est-à-dire que pour ne pas effrayer les touristes, on fait rien, quoi. On cache le.
Oui, on cache la misère, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça.
On se met des douaniers, ils vont arrêter le nuage.
J'ai dévoré cette BD, c'est passionnant. C'est prix de la BD bretonne en 2020. Enfin voilà, donc il faut lire ça. Algue verte, voilà. Seb, à toi.
Bon, alors nous on va reprendre un petit peu de hauteur pour essayer de respirer un peu d'air pur quand même avec cette bande dessinée qui s'appelle tout simplement de Péco et Gibelin, qui s'appelle Spitfire aux éditions Delcourt. Alors prenez place à bord du légendaire Spitfire. Septembre 1931 au Royaume-Uni, participant au trophée Schneider, l'hydravion supermarine S6B bat tous les records de vitesse. Son concepteur, Reginald Mitchell, est approché par un officiel du ministère de l'Air. L'Allemagne a lancé depuis quelque temps un programme de réarmement qui inquiète le gouvernement. La RAF a besoin d'un chasseur moderne, ce sera le Spitfire. Et donc, on a la véritable histoire d'un avion de légende et de son concepteur à travers cette bande dessinée, qui est donc une série qui va s'intéresser justement aux ailes de légende, c'est-à-dire aux avions. Donc en clair, c'est une bande dessinée qui est plus orientée sur ceux qui aiment beaucoup l'aviation. Un petit peu mon cas. Le prochain tome, c'est le Mitsubishi Zero.
Voilà, conseiller à Lionel.
Ah oui, le Zero, oui.
Ouais.
Au Japon, c'est
au
ça.
Au Japon, oui, ouais, bah oui, oui. Donc voilà.
Le fameux.
Le fameux. le fameux. Une très bonne bande dessinée. Visuellement, c'est superbe. On apprend plein de choses sur la conception, sur la préparation finalement, et puis un petit peu sur le contexte de cette époque des années 30 en Angleterre, au Royaume-Uni. Alors, la deuxième bande dessinée, là qui va rejoindre enfin. Sur le thème du premier morceau qu'on avait passé, un petit peu, un petit musique, on va partir dans le monde du jazz. Donc c'est une bande dessinée de Léo Hetz aux éditions Jungle Ramdam, Satchmo.
Satchmo.
Alors, ça, j'avais dit, j'arrivais pas à le prononcer.
Satchmo.
Voilà, Satchmo. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà,
rien pas du tout.
Pas du tout.
Un petit indice encore.
Ah, un indice chez vous ?
Oui.
La trompette ?
Oui, la trompette.
Ah, un indice.
Le jazz.
Oui, le jazz. Mais si on associe les trois maintenant, ça fait penser à qui ?
Comment il s'appelle ? Louis Armstrong,
effectivement. Ouais. Alors, moi, quand j'ai vu cette bande dessinée, eh ben, j'ai pensé tout de suite à Louis Armstrong, ne serait-ce que par le titre déjà. Alors, voilà ce qu'on nous dit, quatrième de couverture. Donc Satchmo, c'est l'époque où le jazz rugit dans les cabarets de la Nouvelle-Orléans, où les gamins des rues gagnent leur croûte avec des instruments rafistolés, où prostituées et tenanciers crapuleux remplissent le paysage, et où jouer du pistolet est aussi fréquent que jouer du cornet. Satchmo, le jeune garçon impétueux et passionné, a choisi le cornet, mais est-ce vraiment un chemin possible vers la liberté ? Et donc du coup, moi je pensais que c'était une biographie dessinée de Louis Armstrong. Eh ben non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, pendant la lecture, j'ai été totalement intrigué par cette idée. Ça m'a tarabusquité jusqu'à la fin de la lecture. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que l'auteur a choisi ce titre, non pas par hasard, puisque effectivement, il fait bien référence à Louis Armstrong. Deuxièmement, il fait aussi référence à une partie de la jeunesse de Louis Armstrong, quand on connaît un petit peu le personnage. Effectivement, il est né à la Nouvelle-Orléans, dans un milieu où sa mère était une prostituée aussi en même temps, vendait ses charmes pour essayer de faire vivre la famille. Ce garçon qui était attiré par le domaine musical, et on se dit, c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment l'histoire ou pas ? Eh bien, en réalité, la réponse elle est très simple, c'est trois éléments de départ, effectivement, qui servent de base à la création de l'histoire, mais après, on s'écarte totalement, ce n'est pas Louis Armstrong qui est du tout évoqué, c'est juste trois éléments de sa vie qui ont servi de base à la réalisation de cette bande dessinée.
Alors, je suis peut-être ignorante, mais Satchmo, c'est un surnom donné à Louis Armstrong,
c'est ça.
D'accord.
C'est
je ne connaissais pas.
C'est simplement parce que, à force de jouer, comme il n'avait pas la bonne technique pour jouer dans le piston, ses joues se sont développées.
Ah oui,
Il avait des gros joues.
Comme Dizzy Gillespie aussi.
Oui, voilà. C'est simplement le signe parce que c'est une mauvaise exploitation du souffle.
D'accord.
Et donc ça donnait ça. Je ne sais plus exactement, mais le terme, c'est grosso modo, c'est un petit peu bouche, quoi, sac de bouche.
Oh, okay.
T'inquiète, t'étais pas ignorante, je savais pas non plus.
Non. Et donc, la bande dessinée, elle est superbe. L'histoire, elle est magnifique. On se laisse emporter. On a envie de savoir si ce jeune petit Satchmo va s'en sortir et comment il va faire pour s'en sortir. Et c'est carrément génial. Ce qui est encore plus intéressant aussi dans cette bande dessinée, c'est que l'auteur a utilisé des souris et des rats pour simplement faire des personnages. Et donc, on a l'impression aussi de retrouver un petit peu l'univers de Maus. Et sur la couleur, la couleur, elle est très simple. C'est du sépia tout au long.
Ouais.
Donc, du coup, ça rend un petit peu cette atmosphère des années 20 qui est un petit peu particulière, finalement, à la Nouvelle-Orléans et puis aussi à Chicago, puisqu'on va aller jusqu'à Chicago. Et puis, dans toute cette histoire du début du jazz, où finalement, les populations noires américaines vont trouver le moyen de s'exprimer pleinement et voilà quoi. Donc vraiment une très très bonne dessinée à lire, et je recommande parce que c'est vraiment une belle histoire.
Merci Seb.
Donc
ouais,
voilà.
Merci, ouais, ça donne envie.
Spitfire et Satchmo.
Ouais, on prend un peu de hauteur.
Héloïse, une petite BD peut-être ?
Alors oui. Une petite BD d'abord. Alors, du coup, je vais vous parler de Radium Girls, l'autrice Si.
Excellent.
Donc, la découverte du radium fait une entrée fracassante dans les États-Unis des années 20. L'élément miracle, découvert par Marie Curie, baigne l'Amérique de son aura phosphorescente. 1919, Edna Bowles s'installe aux côtés de Grace, Catherine, Molly, Albina et Quinta devant les établis du SRC. Elles vont y peindre minutieusement leur quota de cadrans de montre avec cette peinture si spéciale qu'elle permet de lire l'heure dans le noir. Leap, deep, paint. Trois mots, trois gestes qui les mèneront à leur perte. Du coup, si elle est partie sur... alors déjà, la BD, elle est magnifique. C'est...
Il faut éteindre la lumière.
Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, il faut éteindre les lumières, c'est vrai, parce que rien que la couverture est phosphorescente, en fait, ouais. L'arrière de couverture et le devant de couverture. Et du coup, elle a voulu parler de ces femmes, en fait, qui peignaient et qui sont décédées, en fait, à cause du fait qu'elles étaient trop exposées au radium. Et du coup, moi, ce que j'adore surtout, c'est les dessins. Si j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle a un crayonné, elle a sa propre patte, et c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille. Là, je sais qu'elle est en tournée de dédicace. Elle était au festival de Saint-Malo il y a pas longtemps. Moi, j'ai adoré l'histoire parce que, en fait, c'est magnifique, quoi. Enfin, la BD est magnifique. On parle de femmes qu'on ne connaît pas assez dans l'histoire. Pour les plus férus d'internet, elle fait des lives Twitch de temps en temps, et elle termine aussi la BD avec une petite interview où du coup elle explique pourquoi est-ce qu'elle a voulu parler de cette BD, etc. Donc voilà, je vous la conseille. C'est Radium Girls de Si.
Et il y a un super documentaire qui raconte la vie de ces femmes qui est passé récemment sur Arte.
Ah, je connaissais pas. Tiens.
Et qu'est-ce qu'on écoute?
Radio activity. Bien joué, très bien joué.
Alors, on va écouter Eurythmics. Parce qu'on est fan des années 80. Et Seb voulait écouter ce groupe qu'on adore. Alors,
oui.
Sweet Dreams, on la connaît par cœur. Voilà. Et moi, j'adore cette chanson qui s'appelle Here Comes the Rain Again. Dans Bande Geek Mafia. c'était magnifique, c'était Eurythmics, avec la voix d'Annie Lennox. Here comes the rain again. Et revoilà la pluie.
Ça en français, bien
c'est moins classe.
Ouais, mais non, aujourd'hui, il a fait beau. Non, ouais. Aujourd'hui, ça va.
Ça va, ça va. Ça va.
On a dû le mettre hier.
Oui, c'est vrai. Par contre, hier, ça marchait bien.
Et, non, mais c'est pas possible.
Un point météo ce soir.
Ouais, ça. La pluie et le beau temps.
Alors, ce soir.
Parce que c'est important en même temps.
Un petit générique.
C'est vrai. Ah, j'aime bien ça.
Ouais, moi aussi.
Vous aussi, les auditeurs, vous avez votre tête qui bouge là.
Comme dans Wayne's World. Non. Allez, Héloïse, à toi.
Alors, je vais vous parler de deux livres de la même autrice, qui est, je vais faire ma fangirl, hein, mais
motrice,
qui est
motrice,
une autrice, auteur, auteur avec un E.
Non, j'avais compris motrice.
Ça, c'est une locomotive.
Non, qui est mon autrice favorite. J'ai tous ses livres, donc je suis clairement une fangirl. Qui s'appelle Taous Merakchi. Que j'aime beaucoup, qui était avant, qui avait écrit un blog et qui tenait des chroniques sur mademoiselle.com. Après, elle a arrêté, et du coup, sous le pseudo de Jack Parker, et du coup, là, elle est repassée sous son vrai nom. Et c'est une fan d'horreur. Et elle a sorti deux livres récemment. Le premier qui s'appelle Mortel, petit guide de survie à la mort. Oui, parce que je reste dans le thème Halloween, hein, je ne l'ai pas prévu, mais je vous le dis. Du coup, en fait, à la base, avant le bouquin, elle a sorti un podcast où elle parle de la mort. Donc, en gros, ce que c'est, comment on fait son deuil, comment est-ce qu'on rit de la mort, comment est-ce qu'on aime la mort, comment est-ce qu'on le fête, comment ça se passe dans l'au-delà, comment on arrive à vaincre la mort, donc on parle de transhumanisme aussi, comment préparer et se préparer à sa mort, etc. En gros, c'est pour aider les gens qui angoissent vis-à-vis de la mort. Moi, je trouve ça génial. Et elle a cette petite phrase où elle dit « Remontons le Styx ensemble », que je trouve génial. Et voilà, c'est, enfin, ce livre...
Elle se prend pour Charon.
Non, mais ce livre est très agréable à lire.
Au moment où tu l'as payé, c'est mort.
Ouais. C'est le cas de le dire.
Ce livre est super agréable à lire. Vous allez apprendre beaucoup de choses. En fait, du coup, elle a commencé à écrire, en tout cas le podcast, à la mort de son père. Et elle a voulu, elle a toujours eu un lien particulier avec la mort et le morbide, et du coup elle a eu envie en fait de s'y intéresser. Donc voilà, il y a plein de professionnels qui en parlent, des taxidermistes, etc. Enfin,
thanatopracteurs,
oui, mais aussi taxidermistes, il y en a aussi, des psychologues, enfin, etc. Enfin voilà, c'est super intéressant à lire, que en fait on vit plus ou moins tous les mêmes choses, pas au même rythme, mais c'est super intéressant. Voilà, enfin, donc on est sur un thème bien particulier. Après, parler de la mort de manière un petit peu plus fun. Elle a écrit... Non, parce que c'est vraiment ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle « 150 anecdotes macabres pour mettre l'ambiance en soirée ». Donc du coup, c'est en gros des petites anecdotes, honnêtement entre 5 et 10 lignes, super chouettes, qui peuvent mettre l'ambiance en soirée. Donc je vais vous en lire une ou deux que je trouve chouettes. Par exemple, l'écrivain naturaliste Pline l'Ancien est mort près de Pompéi en 79 alors qu'il avait décidé de rester dans le coin pour assister à la fameuse éruption du Vésuve. Mauvaise idée.
Bah, non. Il peut se tromper.
Une autre que j'ai trouvée super, super rigolote aussi. Alors qu'il n'avait jamais remporté de course auparavant, le jockey Frank Hayes a finalement terminé en tête le 4 juin 1923. Le twist, suite à une crise cardiaque au milieu de parcours, c'est post-mortem que le prix lui a été remis puisqu'il était déjà mort quand son cheval a franchi la ligne d'arrivée.
Excellent.
Enfin, oui, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, et une dernière parce que celle-ci, elle m'a fait mourir de rire. Alors, désolé pour la prononciation. Sigurd Eysteinsson, dit le puissant, était un comte viking mort en 890 après avoir décapité un de ses ennemis. Bien décidé à emporter son trophée avec lui, il avait attaché la tête du défunt à la selle de son cheval, mais une dent lui a égratigné la jambe sur le trajet, générant une infection qui a fini par entraîner son décès.
Excellent.
Ça s'appelle une vengeance post-mortem.
C'est exactement le titre. Ça s'appelle le karma. Donc voilà, c'est plein de petites anecdotes, super chouettes. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est pas glauque, c'est juste des petites infos sur des insectes, sur des choses. Enfin, voilà. Hyper chouette, je l'ai lu en une petite heure, je trouvais ça trop cool. Et pour l'anecdote, enfin, alors je vais pas vous la lire parce que je veux vous garder la surprise, mais l'anecdote sur les mésanges, c'est la meilleure. Voilà.
Page combien ?
Faut la lire. Je sais plus c'est quelle page, mais c'est une des meilleures. Je l'adore.
Ouais, tu peux dire comme Monsieur de la Palisse, 5 minutes avant sa mort, il était en vie.
Donc voilà, deux livres de Taous Merakchi, donc Mortel, petit guide de survie à la mort, et 150 anecdotes macabres pour mettre l'ambiance en soirée.
Merci Louise.
Merci. De rien, avec plaisir.
Un petit générique parce qu'il est moins de... Et on se dit au revoir juste après.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Voilà, c'était Bande Geek Mafia. On se retrouve dans 15 jours. Merci, Héloïse.
Avec plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Oui,
tu
merci. À bientôt jours, à tous.
Merci, Anaïs.
Bah, de rien. À bientôt.
Salut, Seb.
Salut, Seb.
On fait un bisou à Pablo.
Oui,
ouais.
Aux auditeurs
Pablo.
Et aux auditrices, à tous, tous ceux qui nous écoutent. Et on vous dit, restez à l'écoute de Radio G. Salut. Alors. Et Seb, oui. Michael Field ou pas?
Ah bon, vas-y.
Parce que Seb m'avait dit, bon, un petit Michael Field, ça pourrait être sympa pour finir l'émission. Vous en pensez quoi?
Allez, vas-y.
Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Salut.
Allez, donne-toi. Salut.
Salut.